Bon matin tout le monde. Ça fonctionne bien. Alors, juste pour vous donner un petit peu de nouvelles, de mise à jour, il y a deux semaines de ça, dimanche, on a été accepté officiellement comme pasteur à l'église d'Alma. Merci beaucoup. Et puis, pour nous, ce qui est le plus bénissant là-dedans, c'est la réponse de Dieu. Même aussi les événements qui sont en train de se dérouler au niveau de la vente de la maison. On a trouvé une maison là-bas, on a fait une promesse d'achat. Maintenant, il va rester à vendre celle qui est ici. Alors, si vous voulez nous appuyer dans la prière, pour nous, c'est un gros morceau. Les échéanciers sont un peu pour le 1er août. On commencerait à l'église le 22 août environ. On aimerait déménager, Dieu voulant, le 1er août. Alors, tout ça, c'est en prière. Il y a eu tellement de morceaux du puzzle qui sont tombés en place qu'on voit vraiment la direction de Dieu. Et puis, on est rempli d'espoir devant des défis de vente de maison quand même qui sont devant nous. On est béni. Ce matin, on va regarder la parole ensemble. Merci pour le privilège d'ouvrir la parole avec vous. On va regarder dans Hébreux 4, ensemble, pour les moments qui sont devant nous. On va lire Hébreux 4 dans un instant. Mais premièrement, j'ai cette petite histoire pour vous. Il y avait un concours entre deux peintres pour faire une peinture sur le thème du repos et de la paix. Alors, ces deux peintres-là se sont mis au travail et puis ensuite ont présenté leur peinture devant des amis. Et puis, le premier a fait une peinture un peu idéaliste. Alors, une belle plage avec des familles, pas trop chargée la plage, et puis le soleil, une petite brise, la mer, mer calme, un ciel bleu, les enfants qui rient, papa qui est assis avec son livre à l'ombre du parasol, et puis une belle peinture idéaliste. Qu'est-ce que serait un repos en famille? Qu'est-ce que serait des vacances? Et puis le deuxième, lui, a fait une peinture un petit peu moins idéaliste. En fait, un petit peu plus réaliste. Et puis, il a peinturé des falaises au bord de la mer, de hautes falaises, avec un ciel sombre, orageux, et puis le vent puis les vagues qui frappaient violemment la paroi des falaises. Et puis là, vraiment, là, on anticipe là, quelque chose de terrible qui s'en vient. Certainement que ces parois rocheuses-là, on va en manger toute une. Et puis, on voit un petit oiseau dans le haut de la paroi rocheuse, dans un trou paisible, se reposant dans son nid, à l'abri, dans un trou de la paroi. Et puis, ce petit oiseau-là regarde sereinement la tempête qui s'en vient. Ça, c'est un petit peu plus une idée réaliste du repos, de la paix. Parce que la réalité, c'est qu'autour de nous, on ne peut pas dépendre de notre entourage pour trouver la paix et le repos. En fait, le vrai repos se trouve premièrement indépendamment de ce qui se trouve autour de nous, indépendant des gens et le trouble ou les tempêtes qui peuvent se lever autour de nous. Regardons ensemble dans Hébreux 4. C'est un texte où l'auteur va adresser la vraie nature du repos réservé aux enfants de Dieu. On va lire au complet 16 versets. Alors, suivez-moi bien. On va voir aussi deux époques, deux périodes de l'Ancien Testament qui sont rappelées ici. Alors, verset 1, Hébreux chapitre 4. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fit de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit, plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant un exemple, le même exemple, de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Dernier verset. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Prions ensemble un petit instant. Père Céleste, merci pour ces versets. Merci pour ces paroles inspirées par toi. Merci aussi pour le repos qui traverse les époques, qui se trouve devant nous aujourd'hui. Puisses-tu nous aider à saisir ces paroles? Puisses-tu nous aider, Seigneur, à saisir combien elles sont importantes pour notre vie personnelle? Puisses-tu guider notre réflexion? C'est en Jésus que je te prie. Amen. Ça nous rappelle deux époques. Premièrement, l'époque de Moïse, où Dieu fit la promesse au peuple qui était dans le désert, qui était au début en Égypte, la promesse du pays promis, le repos en terre promise. Et puis, c'était une promesse qui, on trouve dans Deutéronome, entre autres, 3:20. C'est une promesse qui était une promesse physique, mais une promesse spirituelle aussi. Une promesse d'être délivré physiquement, avoir une terre à eux, mais une promesse spirituelle qui traverse les époques. La promesse d'une relation avec Dieu, la promesse d'une bénédiction de Dieu. Et puis, cependant, le peuple incrédule, on lit ça dans Exode 17, verset 7. Un peuple incrédule qui a mis en doute les paroles de Moïse, qui a mis en doute la promesse de Dieu, qui a murmuré contre Dieu et Moïse. Et puis Dieu s'est irrité contre eux, à Massa, on dit aux eaux de Mériba. C'est le lieu où a eu lieu cet événement-là, parce que le peuple demandait de l'eau. Et puis ils se sont murmurés contre Moïse en disant, « Pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? » Et puis ils ont douté devant la promesse de Dieu. Et puis Dieu s'est irrité contre eux. Hébreux 4 nous rappelle ça ici dans le texte. Au verset 2, ils étaient incrédules devant la promesse de Dieu. Au verset 6, on voit leur désobéissance qui est rappelée. En fait, au verset 7, on en conclut que, quelque part, leur incrédulité avait endurci leur cœur. Et puis, on rappelle cette époque-là. On rappelle aussi l'époque du temps de David, dans Psaume 95, 6 à 11. Il y a une exhortation pour le peuple du temps de David. Cette promesse-là est encore actuel du temps de David. Et puis, à David exhorte le peuple, aujourd'hui, s'ils entendent la voix de l'Éternel, ne pas endurcir leur cœur. Cette même promesse-là vient là, et puis un avertissement de ne pas répéter l'erreur du peuple juif dans le désert. Un avertissement de ne pas passer à côté de la promesse de Dieu, la promesse de repos. Et puis, dans le verset 11 du psaume 95, on rapporte les paroles de Dieu qui dit « Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Un Dieu en colère, irrité face à l'incrédulité du peuple devant la promesse de Dieu. Dans notre époque du Nouveau Testament, cette promesse s'adresse à nous qui avons cru. On voit ça au verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Une promesse qui est d'actualité à cause de Jésus-Christ. à cause de la relation que nous avons, pouvons avoir avec Jésus-Christ aujourd'hui. Et puis, le même repos qui était à la portée des Juifs, à cause de la possibilité qu'ils aient une relation avec Dieu, le même repos qui était à la portée du peuple du temps de David, c'est le même repos qui est à notre portée aujourd'hui. Et puis, une question, je pense, qui est importante lorsqu'on regarde ce texte-là, qu'on va regarder les versets ce matin, c'est comment est-ce qu'on fait pour entrer dans ce repos? Comment est-ce qu'une personne aujourd'hui, chrétienne, peut regarder la parole de Dieu, puis regarder Hébreux 4, puis dire, comment est-ce que je fais pour vivre ce repos-là? C'est quoi ce repos-là? C'est quoi la profondeur de ce repos-là? Qu'est-ce que ça change, cette semaine, dans ce que je vis? Qu'est-ce que ça change à ce que j'ai vécu cette semaine? J'en ai des problèmes pour lesquels j'ai besoin de repos, pour lesquels j'ai besoin de paix. Comment entrer dans ce repos? On va lire deux versets qui vont nous aider en introduction à comprendre comment entrer dans ce repos. Lisez verset 13 avec moi. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. J'ai un écho espagnol qui me suit. On a lu le verset 13, on va lire le verset 10 maintenant. « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres. » Il y a un chemin inévitable pour entrer dans le repos de Dieu. Ce chemin-là passe sous les yeux, sous le regard de Dieu. Ce chemin-là, c'est par le fait de rendre des comptes à Dieu pour nos œuvres. C'est intéressant, hein? Rendre des comptes à Dieu, c'est supposé me reposer, ça. Jésus dit dans Matthieu 11, écoutez bien ça, vous connaissez ça, 28, 11, 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Il semble que de se soumettre sous le joug de la vie en Jésus-Christ, ce soit un joug de repos, léger. De se soumettre à l'instruction de Dieu. De prendre nos œuvres, les passer sous le regard de Dieu. De soumettre nos vies à Dieu. Il semble qu'il y ait, une source de repos. On va l'expliquer un petit peu plus encore. Comment le croyant d'aujourd'hui entre-t-il dans le repos de Dieu? C'est la réponse. La réponse à cette question-là, c'est en soumettant chacune de ses œuvres au regard et à la parole de Dieu. Mais comment est-ce que rendre des comptes à Dieu peut bien m'apporter du repos? C'est difficile à concevoir. Rendre des comptes. Quand je rends des comptes à quelqu'un, je suis assez stressé, merci. Surtout si j'ai des comptes contre moi. Si vous devez rendre des comptes à votre employeur pour une erreur que vous avez faite, ou vous devez rendre des comptes ne sachant pas qu'est-ce que l'employeur va évaluer de les comptes que vous rendez, est-ce que ça va lui plaire ou non, est-ce que c'est satisfaisant ou non. Si vous êtes un jeune à la maison puis vous devez rendre des comptes à vos parents, il y a un niveau de stress qui vient avec ça. Il n'y a pas de repos habituellement. Écoutez bien ça. Le croyant qui veut entrer dans le repos de Dieu dit ceci. Quand tu regardes ma vie, que vois-tu? Qu'en dis-tu? Je veux le connaître et m'y soumettre. Il y a quelque chose de reposant d'aller chercher l'approbation de Dieu. À l'inverse, il y a quelque chose de très stressant. Il y a quelque chose à craindre d'être potentiellement sous la colère ou le châtiment de Dieu. Il y a quelque chose d'apaisant d'être tout près de Dieu, de reposant, de s'asseoir sous l'œil favorable de Dieu. Mais il y a quelque chose à craindre d'être loin, de ne pas connaître la pensée de Dieu, mais connaître que probablement mes œuvres sont reprochables. Il y a une proximité qui amène du repos, de se tenir tout près de Dieu. Je vais vous proposer cinq raisons pour lesquelles rendre des comptes à Dieu peut vous donner du repos. Cinq raisons. pour lequel venir dans la présence de Dieu, rendre des comptes, va vous procurer le repos qui vient de Dieu. Premièrement, la parole de Dieu est un lieu de sécurité. Autant le fait d'être loin de Dieu est insécurisant, il y a quelque chose de sécurisant d'être tout près de Dieu. On lit ça dans le verset 11. Le verset 11 qui dit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Il y a un danger de se tenir loin de Dieu, de marcher par nous-mêmes. Danger de tomber dans la désobéissance, de choisir le chemin de la désobéissance. Le peuple de Dieu se sont attirés la colère de Dieu à cause de cette désobéissance-là. En fait, nous qui sommes enfants de Dieu, on attire peut-être plus la colère de Dieu pour le péché, pour le pécheur qui n'est pas en Jésus-Christ, mais on peut s'attirer le châtiment de Dieu. Le châtiment de Dieu pour ses enfants qu'il aime. Ça se peut que le châtiment de Dieu fasse mal. Ça se peut que tu te sentes un peu insécurisé de savoir quand est-ce que Dieu va te taper sur les doigts, peut-être. Ça va-tu faire mal lorsque Dieu va dire « C'est assez, Jean-Philippe? » Ça va-tu faire mal lorsque Dieu va freiner ma course, possiblement, parce que je tarde à lui rendre des comptes? Le châtiment de Dieu est une chose à craindre. Et puis, même si la promesse de Dieu, écoutez bien ça, même si la promesse de Dieu, de son repos, appartient aux enfants de Dieu, aux chrétiens, certains n'expérimenteront pas ce repos à cause de leur incrédulité. Il y en a qui n'entreront pas. Ils vont passer à côté, comme le verset 1 nous dit. Parce qu'ils auront été incrédules. Parce qu'ils seront tenus loin de Dieu. Parce qu'ils auront été désobéissants à différents degrés. Il y a ce repos-là, cette sécurité-là qu'on trouve seulement lorsqu'on vient rendre des comptes à Dieu. Une autre chose qui nous apporte le repos, c'est que la parole de Dieu est un lieu où trouver la vérité. Autour de vous, vous allez entendre toutes sortes de mensonges, du mensonge qui vient brouiller votre computer, qui vient brouiller votre jugement. Vous allez entendre toutes sortes de choses qui viennent brasser les sentiments, fausser les cartes. Souvent, on vient à Dieu parce qu'on dit « J'ai besoin d'une heure juste. J'ai besoin de savoir la vérité sur une décision. » Mais certainement que rendre des comptes à Dieu, venir dans la parole de Dieu, c'est un lieu de vérité. Le verset 12 et 13 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchant qu'une épée. » Quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Les médecins aujourd'hui n'arrivent pas à séparer moelle et os, c'est tout un tout. Âme et esprit, les psychologues n'arrivent pas à séparer ça. Mais la parole de Dieu, elle tranche dans ça. La vérité de Dieu, elle tranche. Elle va exposer vos sentiments. Elle va vous aider à voir clair sur ce qu'il y a dans votre cœur. Il y a quelque chose de reposant d'être en contact avec la vérité de Dieu qui nous permet d'avoir l'heure juste, de voir clair. Il y a deux vérités qui se font entendre ici. La première vérité, c'est la vérité qui expose mon cœur. Ça, c'est important que je la connaisse, cette vérité. L'autre vérité, c'est la vérité qui expose le jugement de Dieu. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Il y a des comptes à rendre devant un juste juge. Il y aura des comptes à rendre. Il y en a aujourd'hui, mais il y en aura d'autres lorsque notre vie sera passée en revue. Même que dans Apocalypse, pas si c'est chapitre 14, verset 13 ou 13, 14, mais on dit que nos œuvres vont nous suivre avec nous, devant l'Éternel. Certains auront des œuvres qui auront construit le royaume de Dieu, d'autres auront des œuvres qui sont brûlées par le feu. Toute créature est nue et découverte aux yeux de Dieu. Découvert, nous, on comprend ça. C'est un mot qui semble dire enlever quelque chose qui cache quelque chose d'autre. C'est assez simple. Découvrir quelque chose, apprendre quelque chose. Mais le mot découvert ici, moi, j'ai fait une petite recherche. C'est un mot utilisé seulement une fois dans le Nouveau Testament. Il peut y avoir 18 et plus définitions du mot découvert. Quand on regarde les définitions de mots pour lesquels on traduit découvert. Mais écoutez bien la définition de ce mot-là. C'est assez graphique. Ce mot utilisé une fois seulement dans le Nouveau Testament signifie littéralement basculer la tête d'une victime vers l'arrière pour exposer sa gorge avant exécution. C'est assez graphique, hein? J'ai checké plusieurs fois. Ils sont tous d'accord. Ça veut dire la même chose. Basculer la tête par en arrière d'une victime pour exposer son cou avant l'exécution. Découvrir son cou. Chacun de nous sommes nus et découverts devant l'Éternel, notre juste juge. Nous sommes découverts et vulnérables devant la vérité de Dieu. C'est assez alarmant, ces paroles-là. Il n'y a rien de caché. En fait, non seulement ça, il n'y a rien de caché, mais notre condamnation est au grand jour. Et notre réponse à cette vérité peut nous procurer le repos de Dieu. C'est ce qu'on trouve, hein? La justice de Dieu nous dit, nous rappelle le salaire du péché, c'est la mort. Mais la grâce de Dieu nous parle du don gratuit de Dieu, le salut en Jésus-Christ. Mais c'est une vérité frappante de savoir que nous sommes nus et découverts, chacun de nous, ceux qui connaissent Jésus-Christ comme sauveur personnel ou ceux qui ne le connaissent pas. Nous sommes nus et découverts devant celui à qui nous devons aujourd'hui rendre des comptes. C'est une vérité qui peut nous procurer de la paix, de connaître le pécheur que nous sommes en Jésus-Christ et connaître le salut en Jésus-Christ. La parole de Dieu aussi est un lieu où trouver la miséricorde. Ah, wow, la miséricorde. Une chance qu'on a un Dieu miséricordieux. Alors que la justice de Dieu, incontournable, est devant nos yeux. Et pas juste ça, elle est entièrement satisfaite lorsque Jésus-Christ présente son sang devant le Père, le sang d'une victime qui vient couvrir par son sang nos péchés pour nous rendre purs. Alors, le texte nous dit au verset 16 qu'on peut s'approcher avec assurance. Cette miséricorde-là nous amène de l'assurance. Parce qu'on nous tend une miséricorde qui nous permet de ne pas recevoir le châtiment qui nous est dû. On peut venir avec assurance, en toute sécurité, devant le trône d'un Dieu saint pour obtenir miséricorde. La parole de Dieu est un lieu où trouver miséricorde. C'est pour ça qu'on peut y trouver du repos. Quatrième chose, c'est que c'est un lieu où trouver la grâce. Verset 14 nous dit que Jésus est notre souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur. J'ai-tu besoin de ça, moi? Avez-vous besoin de ça, vous? Qu'est-ce que ça change à notre vie d'avoir un souverain sacrificateur en 2008? Vous s'arrêtez pour y penser? Qu'est-ce que ça peut bien changer? Qu'est-ce qu'il y a de pratique avec ça? Premièrement, un souverain sacrificateur... Du temps de l'Ancien Testament, vous savez ce qu'il faisait? Écoutez bien. Il venait devant Dieu présenter le sang d'une victime qui ferait l'expiation, qui paierait le châtiment des péchés pour couvrir les miens. Alors, si je me présente devant le sacrificateur qui va me représenter, il se présente à ma place, il me représente et puis il amène ce sacrifice-là qui a le pouvoir d'apaiser Dieu envers moi. Expié.
Maintenant, Jésus-Christ, ce n'est pas juste notre souverain sacrificateur. Il est le sacrifice. Il s'est présenté avec son propre sang. Un sacrifice parfait, entièrement accepté du Père. Alors, le fait que Jésus-Christ soit notre souverain sacrificateur, c'est important. Une autre chose que le souverain sacrificateur fait, c'est du fait qu'il est pleinement humain. On revient dans l'Ancien Testament. Pleinement humain, le souverain sacrificateur peut s'identifier aux faiblesses humaines dans l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire, il arrive un avec sa petite brebis, puis l'autre avec 14 brebis. Ce souverain sacrificateur-là qui vient offrir les sacrifices n'est pas là pour porter jugement sur celui qui en aurait 14 ou une. Je donne un exemple. Il y avait différents sacrifices, différents animaux pour différents degrés de gravité de péché. Mais le souverain sacrificateur, le prêtre, n'était pas là pour condamner parce que, oh, lui doit faire des gros péchés. Garde ça, ce qu'il amène comme sacrifice. Aïe, 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 moi, pas comme ça. Non. Parce que le sacrificateur était pleinement humain. Il était capable de dire, moi aussi, j'en ai des faiblesses. En fait, le sacrificateur de l'Ancien Testament offrait des sacrifices pour lui-même. Alors, il n'était pas sans comprendre et s'identifier aux faiblesses humaines. Maintenant, Jésus-Christ n'a pas à offrir des sacrifices pour lui-même, mais Dieu le Fils est entièrement humain, la parole de Dieu nous dit. Il a été tenté en toutes choses qu'on lit. Moi, pour comprendre un petit peu, je peux saisir qu'il a été tenté peut-être dans les mêmes domaines que moi. Que vous. Il était tenté au niveau de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. En fait, on trouve ces trois tentations-là lorsque Jésus est allé 40 jours dans le désert, puis Satan lui est tombé dessus pour le tenter. On découvre que Jésus a été tenté dans des domaines très, très difficiles. On peut s'identifier à la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, ces choses-là touchent notre vie à différents niveaux de tentation. Le verset 15 nous dit, « Car nous avons un souverain sacrificateur qui ne... Nous n'avons pas, excusez-moi, un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous. » La parole de Dieu dit qu'il a été tenté comme nous. Ne peut-il pas nous comprendre lorsque nous sommes tentés? En toute chose, sans commettre de péché. La version sommaire le dit ainsi. Écoutez bien, la version du verset 15 dans la version sommaire, elle dit, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. » Ayant été, lui aussi, mis à l'épreuve, de toutes sortes de manières auxquelles on peut s'identifier. Il peut s'identifier à nous. Hébreux 2, 17-18. Vous reculez, vous tournez une page. Écoutez bien ce qu'il est écrit. Hébreux 2, 17-18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il soit souverain, sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Pensez-vous que Dieu puisse comprendre les tentations, les épreuves qui vous percutent chaque semaine? Pensez-vous que Dieu puisse saisir les choses avec lesquelles vous luttez? Pensez-vous que le souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ puisse vous regarder avec grâce et miséricorde? Il y a ce danger-là de regarder Dieu comme celui qui dit « Oh, méchant! Oh, encore! Oh, t'es sale! Oh, regarde comment est-ce que ton péché est odieux! » Mais Jésus-Christ est ce souverain sacrificateur-là, capable de nous regarder avec miséricorde, avec grâce. de compatir avec nous. Nous, on a de la misère à compatir les uns avec les autres. Nous, on a de la misère, des fois, de s'identifier aux autres. Mais Jésus n'est pas handicapé. Jésus n'est pas incapable de s'identifier à ce que vous vivez. Une autre chose, c'est que la parole de Dieu, une autre raison pour laquelle on peut trouver du repos, à rendre des comptes à Dieu. La cinquième chose, c'est que la parole de Dieu est un lieu où trouver le secours dans nos besoins. Ah, le secours. On a besoin de ça. Le verset 10 nous invite à soumettre nos œuvres. Le verset 16 nous invite à soumettre nos besoins. À les présenter devant Dieu. Hébreux 2, 18, tout à l'heure qu'on a lu, ça dit, « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Ou on pourrait lire, « Ayant été mis à l'épreuve lui-même dans ce qu'il a souffert. » Vous souffrez, vous autres aussi. Ça m'arrive de souffrir. Il peut secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. Comment le croyant d'aujourd'hui entre-t-il dans le repos de Dieu en soumettant chacun de ses œuvres au regard et à la parole de Dieu? Seul le repos de Dieu peut vous procurer cette sécurité, cette vérité-là, cette miséricorde, cette grâce, le secours qu'on trouve lorsqu'on rend des comptes, qu'on s'approche de Dieu. Qu'on vient sous son regard savoir ce qu'il pense de ce que l'on vit, ce qu'il pense de ce qu'on fait. Être sécurisé de trouver l'approbation, la paix avec notre Dieu. Se peut-il que vous trouviez du repos dans toutes sortes de bonnes choses? Toutes sortes de bonnes choses pour assouvir votre fatigue, le trouble, le stress, l'anxiété. Le découragement. Mais que ces bonnes choses-là vous égarent du vrai repos. Que ces bonnes choses-là vous attirent loin de Dieu. Parce que vous vous reposez à la mauvaise endroit. Parce que vous faites peut-être du canal évasion de ce que vous vivez. Au lieu d'adresser ce que vous vivez. Au lieu d'aller chercher la lumière sur ce que vous vivez. On fait ça, hein? Change de poste. Je suis blasé, change de poste. Change d'activité. Change de... Sors de la maison. S'évader. On connaît ça, s'évader. Mais le repos de Dieu se trouve lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, adresser les choses qui nous dérobent du repos en tant qu'enfant de Dieu. J'aime vous lire une petite illustration, quelque peu choquante, mais je vais y aller, je vais oser. Conférence des démons. Vous êtes prêts? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer en 2008 lors d'une conférence des démons? Comme conférencier invité, c'est Satan qui s'adresse aux démons. Vous êtes prêts? Dans son discours d'ouverture, adressé à tous les anges déchus, le diable a déclaré, « Nous ne pouvons empêcher les chrétiens d'aller à l'église. Nous ne pouvons pas les empêcher de lire leur Bible et de connaître la vérité. Nous ne pouvons même pas les empêcher de faire l'expérience d'une relation avec Jésus-Christ. Mais s'ils réussissent à maintenir cette relation avec Jésus, notre pouvoir sur eux est brisé. Laissons-les conserver leur style de vie, mais volons leur temps pour les empêcher de conserver vivant cette relation intime avec Jésus-Christ. Voilà donc ce que je veux que vous fassiez. Anges déchus, écoutez bien. Distrayez-les, empêchez-les de s'emparer de leur sauveur et de maintenir leur relation vitale quotidienne. » Un murmure dans la salle des démons. Alors le diable précise, « Gardez-les occupés aux choses non essentielles de la vie. Inventez des machinations pour occuper leur esprit. Poussez-les à dépenser. Emprunter. Persuadez les femmes d'aller travailler de longues heures et les maris de travailler 6-7 jours semaine, 12 heures par jour, pour pouvoir s'offrir ce qu'ils désirent. Empêchez-les de passer du temps avec leurs enfants et leurs familles. Bientôt, leur maison n'offrira plus aucune échappatoire à la tentation de leur travail. Stimulez-les de plus en plus. Stimulez leur esprit au point qu'ils ne puissent plus entendre cette douce voix de l'Esprit Saint. Poussez-les à mettre la radio, les cassettes, les CD, le son au volant, le téléviseur, les ordinateurs en permanence dans leur foyer. Veillez à ce que chaque magazine et restaurant dans le monde joue de la musique. Non, chrétienne, sans interruption, voilà, cela va les remplir leur esprit et casser leur union avec Jésus-Christ. Couvrez les tables basses de magazines et de journaux pour qu'ils soient envahis de nouvelles du monde, 24 heures sur 24, qu'ils aient plein panneaux publicitaires le long des routes et qu'ils attirent leur regard lorsqu'ils conduisent. Inondez-les dans leur boîte aux lettres de courriers intéressants, catalogues, concours, toutes sortes de lettres promotionnelles offrant des produits gratuits et des services publicitaires, vantant de faux espoirs. Mettez beaucoup de mannequins maigres, magnifiques, sur les premières pages de magazines pour que les hommes croient que la beauté extérieure est plus importante que la beauté intérieure et qu'à ce moment, ils seront mécontents de leurs femmes et cela brisera vite les familles. Dans leur moment de récréation ou de détente, poussez-les à être excessifs, qu'ils reviennent de ce moment complètement épuisés, pas du tout en paix pour préparer leur semaine à venir. Ne les laissez pas aller dans la nature pour méditer les merveilles de Dieu. Il en reste 3. Envoyez-les dans les parcs d'attractions, voir des événements sportifs, assister à des concerts, aller au cinéma pour occuper leur temps. Gardez-les occupés. Quand ils se rencontrent pour des rencontres spirituelles, entraînez-les au commérage, au bavardage, qu'ils aillent après ces rencontres, l'esprit troublé et les émotions en ébullition. Allez, laissez-les s'engager pour gagner des âmes, mais remplissez leur vie tellement de bonnes choses qu'ils n'aient pas le temps de chercher la puissance venant de Jésus-Christ. Très bientôt, ils travailleront et feront tout cela de leur propre force en faisant le sacrifice de leur santé et de leur famille pour la bonne cause. Et ça va marcher! Oui, ça va marcher! Les démons exultèrent. Ah, c'est vraiment bon, cette convention! Alors, les anges déchus partirent très vite, mettre en pratique les leçons apprises au cou. Occuper les chrétiens, les stresser, les pousser à courir ici et là. Le diable a-t-il réussi sa mission dans votre vie? De vous inciter à vous reposer au mauvais endroit. Passez à côté du repos, de la proximité avec Jésus-Christ. Prions. Dieu Tout-Puissant, il y a un monde réel où Satan travaille très fort. Quelle belle illustration, cette conférence, parce qu'elle touche la réalité d'aujourd'hui. Et Père Céleste, Satan travaille très fort dans nos vies pour nous dérober de cette proximité-là avec Jésus-Christ. Puisses-tu nous éclairer? Puisses-tu nous aider à considérer nos horaires, nos vies, nos loisirs, que nous puissions planifier, entrer dans ce repos-là, le repos de Dieu, le repos qui va contribuer à nos vies, qui va changer chaque jour de nos vies. Sois loué Dieu Tout-Puissant pour Jésus-Christ. Qui nous apporte ce repos. Amen.
Pour remercier Jean-Philippe pour le beau travail qu'il a fait. J'aimerais inviter Catherine. Catherine? Elle est là, juste ici, hein, oui. Viens t'en, Catherine, si tu veux bien. Merci, Jean-Philippe, message. C'est correct? Bonhomme. Eh bien, ce matin, on veut vraiment prendre le temps de vous remercier tous les deux. Regarde le beau sourire. Oui, c'est ça. Hein? Moi, je connaissais pas beaucoup Jean-Philippe ni Catherine avant. Ce que je connaissais de Jean-Philippe et Catherine, ça me venait de Joël. Vous savez que le frère de Jean-Philippe a marié ma fille. Alors, les Lapierre sont comme entrés dans notre famille. Alors, on a des échos ici et là. Moi, je connaissais Jean-Philippe et Catherine par Joël. J'ai vraiment appris à connaître Jean-Philippe en travaillant avec lui ici. J'ai découvert des choses. Jean-Philippe, vous savez peut-être pas ça, ceux qui l'ont côtoyé un peu plus près le savent. Jean-Philippe, c'est tout un négociateur. Avez-vous découvert ça? Hans, c'est de la compétition, là. Parce que quand il achète une voiture puis il la revend, il fait trop de l'argent avec. C'est le seul gars que je connaisse qui achète une voiture puis la vend plus cher. Je n'ai jamais rencontré ça, moi. Mais en plus de ça, on a découvert des belles choses, des belles qualités. Et certainement, c'est un couple charmant. On vous apprécie beaucoup. On a beaucoup apprécié de travailler avec vous autres. C'est un couple qui aime beaucoup les jeunes. Ils se sont investis dans la vie des jeunes. Ils ont pris du temps avec eux, non seulement à s'occuper de la jeunette le samedi, mais un à un, des gens qu'ils rencontraient chez eux, parfois au restaurant. C'est un couple qui aime les démunis, évidemment. Ils ont travaillé, Jean-Philippe a travaillé à Mission Bon Accueil avant, travaillé à Bouffe pour tous ici comme directeur général. Fait tout un travail colossal à Bouffe pour tous. C'était il y a beaucoup de décisions qui devait être prise, et Jean-Philippe les a pris et a avancé. La Banque alimentaire a avancé depuis qu'on a commencé. Et on fait vraiment un beau travail là-bas. Catherine aussi a à cœur les gens. Et Catherine, ce qu'on connaît de Jean-Philippe, ça prend une femme à quelque part dans le portrait. Et pour que Jean-Philippe ait cette aisance-là d'être ce qu'il est, c'est qu'il y a une femme, à quelque part, dans le portrait. Puis, certainement, on veut te remercier d'avoir été bien généreuse avec lui. Bien des heures, des fois jusqu'à minuit, ça arrivait. Et Jean-Philippe téléphonait son épouse et t'étais très généreuse avec. Et on veut te remercier pour ça. Et ce matin, on veut vraiment prendre le temps. On perd quelqu'un, on perd un beau couple. On s'est attaché à vous. Mais en même temps, on pense à l'Église d'Alma, que ça fait des années qu'ils n'ont pas de pasteur. Et combien ils doivent être heureux de vous avoir, de savoir que vous en allez là-bas. C'est sûr qu'égoïstement, on aurait aimé ça vous garder, mais on sait que Dieu est souverain dans tout ça. Et il y avait cette Église qui priait pour avoir un pasteur. Et là, Dieu a répondu. Et ils sont très heureux. Et on veut vous dire qu'on est là, disponible, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si l'Église, vous avez des projets là-bas, faites-nous le savoir. Et on veut prendre le temps de ce matin de prier pour ce ministère que Dieu vous confie maintenant, ce nouveau chapitre dans votre vie, et certainement vous remercier. On a un petit quelque chose à vous remettre, un petit cadeau. Daniel aussi, si tu veux. Oui.
Juste mentionné pour l'Assemblée. Ah, c'est vrai? Tu es allé chercher? OK, vas-y.
Non, c'est correct. Est-ce qu'on a la photo? Oui. On va montrer. On a un petit cadeau pour vous autres avec ce bel arrangement. Château Bonne Entente, vous en allez là.
Vous m'avez acheté ça?
Oui. Négociateur, hein?
Ouais. C'est l'Église d'Alma,
hein? Oui, l'Église d'Alma, c'est l'Église d'Alma. Et puis, on aimerait vous offrir ça.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Un repas inclus, puis ça va vous donner une belle... Merci. Oui, merci beaucoup. Merci. peut-être Michel vient des anciens qui sont disponibles. Robert, viens-t'en, on va, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais Laval, viens-t'en, t'as beau être en sabbatique, là, viens, on va te faire travailler ce matin un petit peu, là, viens-t'en. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, là, je ne sais pas si Luc est ici. Venez-en ici en avant, Laval, on va prier pour votre ministère. Viens-t'en ici, tiens, veux-tu...
Seigneur notre Dieu, nous voulons élever ton nom. Lorsqu'on célèbre, Seigneur, lorsqu'on honore des gens comme ça, c'est ton nom que nous élevons, Seigneur, en fait. On a connu Jean-Philippe et Catherine, on a connu un peu, Seigneur, de leur intimité, de leur vie. Et Seigneur, nous pouvons témoigner de ton œuvre dans leur vie, dans leur couple, dans leur cœur, Seigneur. Seul toi, ô Jésus, entre dans la vie d'un homme et d'une femme pécheurs pour les amener à s'oublier eux-mêmes et faire d'énormes sacrifices, Seigneur, et y trouver joie et plaisir. Pour un royaume qui est encore invisible, Seigneur, que nous attendons avec espérance. Quelle folie aux yeux de ceux qui ne te connaissent pas. Mais nous t'avons connu, Jésus. Et Jean-Philippe et Catherine t'ont connu. Et ils ont connu ton sacrifice et ton amour. Et Seigneur, ils t'ont offert leur vie en sacrifice. Nous voulons te demander, Père, de faire reposer ta bénédiction sur ce couple. Viens bénir, bon Père. Viens bénir l'entreprise de leurs mains, tout ce qu'ils vont entreprendre, Seigneur. Que ce soit couvert de ta bénédiction. Que l'Église d'Alma, Seigneur, reçoive notre bénédiction. Nous voulons bénir cette Église, Seigneur. Nous appelons tes grâces sur cette assemblée, car c'est une partie de nous, Seigneur, qui s'en va là-bas. Avec toute notre affection, tout notre amour, Seigneur, viens bénir cette Église. Fais-la grandir. Bénis les jeunes foyers, les jeunes couples qui sont en train de se joindre à l'Église là-bas, Seigneur. Bénis ceux qui ont tenu la barre. Je pense à cet ancien qui est en repos, en sabbatique. Bénis-le, Seigneur. Rafraîchis son cœur et ses forces, Seigneur. Des âmes sont à gagner là-bas. Père, nous voulons te prier pour les enfants de la famille Lapierre. Nous te prions pour leur salut, pour leur santé, Seigneur. Que nous ayons la joie d'entendre, de recevoir des échos de leur consécration au fil des années, d'entendre, Seigneur, qu'ils sont passés par les eaux du baptême, d'entendre, Seigneur, qu'ils sont en train de servir ton royaume. Seigneur, que ta grâce soit sur cette famille. Nous te sommes reconnaissants de nous les avoir prêtés pour quelque temps, d'avoir vu dans leur vie ton œuvre. Donne-leur, Seigneur, de persévérer jusqu'à la fin, de ne jamais ralentir dans leur course et de briller pour toi, Seigneur. Bénis-les. C'est en Jésus qu'on prie. Amen.